بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, nous musulmans disposons d'une histoire magnifique qui, comme je l'ai dit, je le répète, est plus pure que le miel, plus brillante que le cristal, plus parfumée que les fleurs, plus blanche que la neige, plus belle que le sourire innocent d'un petit enfant. Nous avons eu dans notre communauté des savants émérites, des adorateurs sincères et ascètes, des enfants qui étaient des héros, des femmes pieuses, des juges justes, des gouverneurs sages et justes, et il nous suffit comme honneur d'appartenir à la communauté du meilleur des hommes qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'un des plus grands savants de notre communauté. Et comme vous le savez, les savants sont les héritiers des prophètes. Ils sont semblables, rahimahumullah, à des bougies qui brûlent afin d'éclairer ceux qui les entourent. Tels sont les savants. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un savant très connu. Il s'agit d'un très grand savant. Il est le troisième des imams des quatre écoles. Ce savant a excellé dans la science du hadith et dans le fiqh. Ce savant est né à Gaza et il a été enterré en Égypte. Savez-vous de qui il s'agit ? Il s'agit de l'un des imams de notre communauté, d'un grand savant, et il a fait partie des élèves de l'imam Malik. Il a étudié chez l'imam Malik, rahimahullah, et il a étudié chez les élèves de l'imam Abu Hanifa. Ce savant a aussi été l'un des enseignants de l'imam Ahmed. Il s'agit, comme l'a dit l'imam Zahabi rahimahullah dans Sir Alam Nubala, du défenseur de la sunna. De celui à propos de qui l'imam Ahmed rahimahullah a dit qu'il était comme le soleil pour ce bas monde et la bonne santé pour le corps. Imaginez-vous un petit peu. Il s'agit de celui qui a atteint le plus grand niveau de science à son époque. Il fut un savant dans le Coran, dans la science du Coran, et dans le Coran même. Il fut un savant dans la sunna et ses sciences. Il fut un savant dans le fiqh, la jurisprudence et ses règles, dans la langue, dans la poésie. Il fut un grand adorateur, un ascète, un pieux. Savez-vous de qui il s'agit ? On va vous parler aujourd'hui du troisième des imams des quatre écoles. On vous a déjà parlé de l'imam Abu Hanifa qui était le premier. On vous a parlé de l'imam Malik. Et aujourd'hui, bi'idhnillahi azza wa jal, nous allons parler d'Abi Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullah. Nous avons donc rendez-vous aujourd'hui avec le défenseur de la sunna. Commençons par son identité. Il est Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Shafi' ibn Abd Yazid ibn Hashim ibn Abd al-Muttalib Ibn Abd Manaf, le grand-père du prophète alayhi salatu wassalam. Il a donc un lien de parenté avec le prophète alayhi salatu wassalam. C'est donc un proche du prophète sallallahu alayhi wasallam. L'imam al-Zahabi rahimahullah, l'élève de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, et d'autres savants disent que lorsque sa mère tomba enceinte de lui, elle vit en rêve un astre sortir de sa partie intime avant, atterrissant en Égypte et illuminant le monde. Et il en fut ainsi, l'imam Shafi'i rahimahullah vécut une partie de sa vie en Égypte et mourra en Égypte. De même que cet astre qui illumina le monde n'est rien d'autre que son savoir qui illumina effectivement le monde entier. Subhanallah, je suis sur Paris, après plus de 1000 années, je parle de l'imam Shafi'i rahimahullah. Et c'est pareil pour les prêcheurs et les savants du monde entier, dans leurs discours, dans leurs khutbah. Partout on entend parler de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Sa naissance. Il est né en l'an 150 de l'Hijra, l'année où l'imam Abu Hanifa est mort. Il est né à Gaza. Et je demande à Allah Azzawajal de venir en aide à tous nos frères et sœurs de Gaza. Il perdit son père Idris pendant son enfance et grandit orphelin. Et c'est sa mère qui l'a éduqué. Elle a fait de lui un grand imam. Et anciennement, les Arabes disaient, derrière tout grand homme, il y a une mère. Et si vous remarquez, il n'est pas le seul à avoir eu une mère exemplaire. Il y a eu aussi Anas ibn Malik. C'est sa mère, Umm Sulaym, qui l'a éduqué. Az-Zubayr ibn al-Awwam, l'imam Abu Hanifa, qui a perdu son père alors qu'il était encore petit. L'imam al-Bukhari, Sufyan al-Thawri, etc. Mes sœurs, vous qui êtes mères de famille, n'oubliez pas que vous êtes l'école des générations. N'oubliez pas que vous avez un grand rôle dans l'éducation de vos enfants. Certes, le mari va vous aider, mais vous avez le plus grand poids. Vous êtes proche des enfants, vous les voyez peut-être plus que le mari. Ils sont attachés à vous. N'oubliez pas que vous êtes responsable. Ce grand savant, qui est l'imam Shafi'i, s'est retrouvé avec sa mère qui était pauvre. Et méditez bien sur ce mot qui était pauvre, parce que vous allez, Inch'Allah, en tirer pas mal de leçons. Alors il s'est retrouvé avec sa mère qui était pauvre. Son père ne lui a pas laissé d'héritage. Il a grandi et vécu dans la pauvreté. Mais cela ne l'a pas empêché d'apprendre la science. Donc toute personne qui dit, moi j'aimerais bien apprendre la science, mais c'est difficile, je suis pauvre, j'ai pas les moyens, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. L'imam Shafi'i rahimahullah s'est retrouvé avec sa mère qui était pauvre. Son père ne lui a pas laissé d'héritage. Sa mère l'a élevé et rapidement elle l'a emmené étudier la science religieuse car elle avait peur pour lui. Elle avait peur que son fils s'égare du chemin d'Allah Azzawajal. Et là, voyons ensemble son parcours dans la science, qui était, wallah, il a un vime impressionnant. Sa mère le prit et partit à la Mecque alors qu'il n'avait que 2 ans. On a dit, il est né où? À Gaza. Et il est mort? En Égypte, très bien. Sa mère, elle l'a pris alors qu'il n'avait que 2 ans, puis elle l'a emmené où? À la Mecque. Et c'est là-bas qu'il a grandi et étudié la science. Puis lorsqu'il a grandi, il se rendit à Médine afin d'apprendre la science auprès de l'imam Malik. Et on va parler, Inch'Allah, de sa rencontre avec l'imam Malik en détail. Puis il voyagea en Irak afin d'apprendre la science de l'imam Abu Hanifa. À ce moment, bien sûr, l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, n'était plus en vie. Puis il se rendit au Yémen, en Syrie, en Égypte, et c'est en Égypte qu'il mourut, rahimahullah. L'imam Shafi'i, rahimahullah, raconte que la première chose qu'il a apprise à la Mecque fut le tir à l'arc. Le tir à l'arc. Et cela, non pas pour s'amuser, mais pour être prêt en cas de guerre à combattre et sauver les musulmans. Lorsqu'il jetait ses flèches sur ses cibles, il n'en ratait qu'une sur 10. Lorsqu'il excella au tir à l'arc, il commença à apprendre Al-Qur'an, le Coran. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit qu'il a appris le Coran alors qu'il n'avait que 7 ans. 7 ans. Imagine. 7 ans, il connaissait le Coran par cœur. L'imam Zahabi rahimahullah a dit qu'il a ensuite appris Al-Muwatta. Vous vous rappelez Al-Muwatta? C'est le livre de l'imam Malik, rahimahullah, on en a parlé la dernière fois. C'est un livre qui contient environ 2000 hadiths. Il l'a appris alors qu'il avait 10 ans. À 7 ans, il a appris le Coran. À 10 ans, il a appris Al-Muwatta. 10 ans, il connaît déjà environ 2000 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc appris le Coran par cœur à l'âge de 7 ans. Allah tabaraka ta'ala donna à l'imam Shafi'i le don d'apprendre très vite, au point où lorsqu'il écoutait une chose une seule fois, il l'apprenait. Une fois, il l'apprenait. L'imam Shafi'i rahimahullah raconte sur lui-même que son professeur dictait à ses élèves, dont il en faisait partie, les sourates de Coran afin qu'ils les écrivent sur des tablettes et qu'ils les apprennent une fois rentrés chez eux. L'imam Shafi'i a juré en disant, j'apprenais chaque verset que mon professeur me dictait en l'écrivant dès la première fois. Il écrit le verset la première fois, ça y est, c'est appris. Imagine, s'il y a 30 versets, 60 versets, en écrivant le verset, il l'a appris. C'est un don d'Allah Azza wa Jal. Si son professeur, par exemple, lui dictait Al-Hakum al-Takathur, Hatta Zurtum al-Maqabir, lui, en écrivant, ça y est, c'est appris. C'est impressionnant. Une fois que le cheikh avait terminé de leur dicter une sourate, il leur disait, c'est à apprendre pour la prochaine fois. L'imam Shafi'i, lui, disait, moi je l'ai déjà appris. Shafi'i, comme je vous l'ai dit, était pauvre, et tellement qu'il était pauvre, il n'avait pas les moyens de payer ses cours de Coran. Donc comment il faisait? Son professeur lui enseignait le Coran, mais il n'avait pas de contrepartie financière. Donc comment est-ce que l'imam Shafi'i faisait pour payer ses cours de Coran? Écoute avec moi. Il s'était mis d'accord avec son enseignant sur le fait d'enseigner aux élèves du professeur et de les suivre, et de cette manière, il n'aurait pas besoin de payer ses cours de Coran. Et tellement en fait son cheikh lui faisait confiance, et il savait que la science de l'imam Shafi'i était impressionnante et que son apprentissage était exceptionnel, c'est tellement qu'il a vu tout cela qu'il lui a confié les élèves, il lui a dit j'accepte. Et de cette manière, il n'avait plus rien à payer à son professeur. Donc il était lui aussi enseignant alors qu'il était encore jeune. Après avoir terminé l'apprentissage du Coran à 7 ans, il demanda qu'on lui indique ce qu'il fallait apprendre d'autre. On l'a informé qu'il n'y avait pas mieux que d'apprendre l'histoire des Arabes et la poésie. Al-Shi'r. Il demanda quelle est la meilleure tribu qui puisse m'enseigner ces sciences. On lui répondit la tribu de Hudhayl. Il voyagea en direction de la tribu de Hudhayl et il resta dans cette tribu jusqu'à apprendre l'histoire et 10 000 vers de poésie. 10 000 vers de poésie. Aujourd'hui, une personne qui apprend 500 vers de poésie, c'est un miracle. C'est un miracle. 10 000 vers. Il maîtrisait parfaitement la langue arabe. Personne ne rivalisait avec lui au point où Abu Nu'aym a dit de lui dans Hilyatul Awliya, il était le plus éloquent de son époque. Il était le plus éloquent de son époque. Il était très compétent en Coran. Il suffisait qu'on lui dise « Cite-moi tel verset » et il le citait en disant même le numéro du verset. Il était très fort en histoire, il a excellé dans chaque matière qu'il a étudiée. À 14 ans, c'était un savant extraordinaire. 14 ans. Ça y est, c'est terminé, c'était un grand savant. On le consultait dans la science. 14 ans. À 14 ans, c'est un savant extraordinaire. Un parmi les bédouins, qui était berger, savait qu'Al-Shafi'i était l'un des proches du prophète alayhi salatu wasalam. Et ce bédouin dit à l'imam Al-Shafi'i, ne te contente pas d'être un poète, demande la science du fiqh, de la jurisprudence, Allah t'élèvera. Al-Shafi'i a dit, Allah a fait que ces paroles m'ont été utiles. Subhanallah, Al-Shafi'i est passé de la poésie à la jurisprudence par un simple conseil que lui a fait un bédouin. Imagine. Et comme vous le savez, plus d'une personne ont changé à cause d'une simple parole. Pendant qu'il marchait avec l'un de ses cousins, ce dernier lui a dit, Allah t'a donné une bonne mémoire par laquelle tu as appris beaucoup alors que tu es encore petit. Puis son cousin lui proposa, pourquoi n'irais-tu pas prendre la science du savant de notre époque? Al-Shafi'i lui demanda, qui est cette personne? Son cousin lui répondit, l'imam de notre époque est l'imam Malik. Et il était à la Mecque. Et Malik, il était où? À Médine. L'imam Al-Shafi'i lui demanda, quels sont ses ouvrages? Son cousin lui répondit, il a écrit Al-Muwatta. Pour info, Al-Muwatta n'est pas un livre de hadith, c'est un livre qui regroupe les hadiths, les paroles des compagnons et les fatwas des tabi'in. L'imam Al-Shafi'i demanda ce livre qui est Al-Muwatta à un de ses voisins et il l'a appris en 9 jours. En 9 jours, il a emmagasiné 2000 hadiths. En 9 jours. Subhanallah. Et il lui suffisait d'un regard sur la page pour l'apprendre. Et c'est ainsi qu'il l'a appris. Et on a dit qu'il l'a appris à quel âge? 10 ans. Allah a donné le don de l'apprentissage à certaines personnes qui le méritaient. Ibn Abi Hatim dit, j'ai entendu Al-Muzni, qui était le plus grand des élèves de Shafi'i, dire, on questionnait l'imam Shafi'i, comment est ton envie pour la recherche de la science? Regarde ce qu'il dit Shafi'i. J'entends exactement des mots que je n'avais pas entendus auparavant. Et mes membres auraient espéré avoir des oreilles afin d'en jouir autant qu'en jouit mes oreilles. Et comment est ton attention, ton désir pour la science? Il dit, tel un avare inquiet qui désire l'argent. Subhanallah. On lui demanda enfin, et comment recherches-tu la science? Il répondit, tel la recherche d'une femme qui a perdu son enfant et qui n'en a pas d'autre à part lui. T'as vu la motivation? Parlons maintenant de cette fameuse rencontre, la rencontre de l'imam Shafi'i et de l'imam Malik. Rahimallah al-Jami'a. Après avoir appris le Muwatta, il alla voir son cousin qui était le chef de la Mecque et il lui dit, j'ai envie de rencontrer l'imam Malik à Médine afin qu'il m'apprenne la science. Son cousin lui écrit une lettre afin qu'il la transmette au chef de Médine et que ce dernier la donne à l'imam Malik en personne pour que ça donne un poids. Donc c'est le chef de qui? De Médine qui va donner la lettre au savant. C'est vraiment une tazkiya, une recommandation. Et l'imam Shafi'i voyagea. Subhanallah, il était pauvre, mais son seul souci était d'apprendre la science. Et il n'a pas appris la science pour que l'on dise de lui l'imam, le savant, le talib ilm, celui qui connaît beaucoup. Pas du tout. Mais pour rechercher la satisfaction d'Allah et pour éclairer le chemin des gens par sa science. Lorsqu'il arriva à Médine, il transmit la lettre que son cousin lui avait écrite à qui ? Au chef de Médine. Le chef lui dit, tu veux que je vienne avec toi chez Malik ? Sache qu'il m'est préférable de marcher à pied de Médine à la Mecque en faisant un aller-retour que d'aller chez l'imam Malik par crainte envers lui. L'imam Malik, c'était quand même quelqu'un de respecté, il avait du charisme. Le chef de Médine, il dit, je préfère faire un aller-retour à la Mecque à pied que d'aller rencontrer l'imam Malik. Il dégageait quelque chose, rahimahullah. Les gens le respectaient énormément. Et il en est ainsi, plus tu crains Allah, plus tu apprends la science, plus tu es respecté partout dans le monde. Le chef alla avec lui chez l'imam Malik et il frappa à sa porte. Suite à quoi, une petite fille noire sortit et le chef l'envoyait demander à l'imam Malik de les recevoir. Il lui a dit, va demander à l'imam Malik de nous recevoir. La petite fille rentra et tarda. Puis elle finit par revenir et elle lui a dit, l'imam Malik te dit, si c'est une question religieuse, écris-la sur une feuille et il t'écrira la réponse sur le dos de la feuille. Et si c'est pour avoir une information sur un hadith, tu connais l'endroit où l'imam Malik enseigne, retrouve-le là-bas. C'est le chef de Médine. Le chef lui a dit, je ne viens pas pour tout cela, mais je viens à l'imam Malik car le chef de la Mecque m'a envoyé avec une lettre pour lui. Elle rentra et ressortit avec une chaise, puis l'imam Malik sortit à son tour. Et l'imam Malik s'assit sur la chaise, puis le chef lui donna la lettre en lui disant, Lila, elle vient de la part du chef de la Mecque. Et tout ça, ça n'a pas de poids pour le savant. Tout ça, ça n'a pas de poids pour le savant. Lorsque l'imam Malik termina la lecture de cette lettre, il la jeta et dit, est-ce de cette manière que l'on apprend la science ? En envoyant des lettres, et il se mit en colère. L'imam chef, rahimahullah, s'adressa à l'imam Malik en lui disant, ô Cheikh, je suis un jeune muttalibi. C'est-à-dire qu'il a un lien de parenté avec le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et je suis venu afin d'apprendre de ta part les hadiths du prophète alayhi salatu wasalam. L'imam Shafi'i dit, il me regarda et mes paroles lui plurent et me dit, mon enfant, viens demain. Puis le lendemain, l'imam Shafi'i raconte, je me suis rendu au cours de l'imam Malik, puis il me demanda de lire Al-Muwatta. Je me mis à le réciter par cœur sans aucune erreur. Sans aucune erreur. Jusqu'à ce qu'il m'a dit, mon enfant, je vois qu'Allah a illuminé ton cœur par la science, n'éteins pas cette lumière par les ténèbres des péchés, tu auras un grand avenir, Inch'Allah. Allahu Akbar. C'est les paroles de l'imam Malik. Et on sait tous qui est l'imam Malik. On a vu sa biographie ensemble. Il lui a dit, je vois qu'Allah a illuminé ton cœur par la science, n'éteins pas cette lumière par les ténèbres des péchés. Et il lui a dit, tu auras un grand avenir, Inch'Allah. Médite, tu auras un grand avenir, Inch'Allah. Il ne lui a pas dit, tu es un grand savant. Mais plutôt, tu auras un grand avenir. Et c'est comme ça qu'il faut faire avec les élèves. Il ne faut pas trop les gonfler. Car ça peut être dangereux pour leur nefs, pour leur ego. Il faut leur dire, bi'idhnillah, si tu continues, tu es dans le bon chemin. Tu vas réussir. Plus tard, tu seras un bon da'i. Tu auras de la science. Mais pas gonfler la personne. Subhanallah, l'imam Malik l'a analysé rapidement comme un médecin. Et comme vous le savez, les savants sont les médecins des cœurs. Il a donc étudié chez l'imam Malik Al-Muwatta, le fiqh, le hadith, les fatwas des compagnons, et il reste à ses côtés jusqu'à sa mort. Il étudia chez lui et chez les savants de Médine. Donc il a pris toute la science qu'il y avait à Médine. Puis Al-Shafi'i étudia aussi chez Muhammad ibn al-Hassan, qui était l'un des plus grands élèves d'Abu Hanifa. Et il a étudié chez plein d'autres grands savants de son époque, et parmi les élèves qu'il a eu, l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Et c'est ce qui nous reste des quatre écoles, et vous verrez que l'imam Ahmad, il y a de quoi dire sur sa biographie, rahimahullah. Donc l'imam Al-Shafi'i, ça a été l'élève de qui ? De l'imam Malik. Il a étudié chez les élèves d'Abu Hanifa. Et il a eu comme élève l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimallahu al-jami'a. Ishaq ibn Rahway, un grand savant parmi les salafs, raconte que l'imam Ahmad s'empressait de s'asseoir dans les assemblées de l'imam Shafi'i. Et l'imam Ahmad disait à Ishaq, si tu rates les cours de hadith, ce n'est pas grave. Mais si tu rates les cours de l'imam Shafi'i, tu auras perdu un grand bien. Vous avez vu comment les savants s'aimaient entre eux et à quel point la haine, la jalousie et toutes les maladies du cœur étaient inexistantes chez eux. Ishaq demanda à l'imam Ahmad, « Et qui est ce Shafi'i chez qui tu t'assois ?» L'imam Ahmad lui a dit, « Si tu n'assistes pas à ces assemblées, tu auras perdu un grand bien. » Ishaq ibn Rahawai, par curiosité, voulut en connaître plus sur Shafi'i. Alors, il alla le trouver et il débattut avec lui dans plusieurs matières en commençant par la langue arabe. Puis il s'aperçut qu'il était une source inépuisable en langue arabe. Alors, il débattut avec lui en hadith et s'aperçut qu'il était une source inépuisable en hadith. Par la suite, il débattut avec lui en jurisprudence, en fiqh. Il s'aperçut qu'il était une source inépuisable en fiqh. Il débattut avec lui en aqida, en matière de croyance. Et pareil, il s'aperçut que c'était un océan en aqida. Après plusieurs débats, il s'aperçut qu'il était devant une bibliothèque complète. Et après avoir terminé le débat, il dit, maintenant je sais qui est Shafi'i. Subhanallah, un ordinateur. Il maîtrisait toutes les matières. Toutes les matières. Je reviens à dire que l'imam Shafi'i rahmallah a voyagé à Médine. Et il a appris de l'imam Malik. Puis il s'est rendu en Irak. Et il a appris de Muhammad ibn al-Hassan, l'élève d'Abu Hanifa. Et en quittant l'Irak, les écrits de l'imam Shafi'i étaient tellement lourds qu'il les fit porter par un chameau et ça avait rempli le dos du chameau. Imagine. C'est comme ça en fait pour Talib al-Ilm. Talib al-Ilm, il doit écrire. Toi, tu es un demandeur de science, tu dois écrire. Tu dois écrire de cette manière, tu enregistres. Tu n'écris pas, tu as des infos, il te restera des poussières après quelques mois dans ta cervelle, mais pas plus. Shafi'i n'a pas perdu son temps à Médine. Il a appris le madhab de l'imam Malik. Il est parti en Irak, il a appris le madhab de l'imam Abu Hanifa. Il les a appris par cœur. Puis il voyagea au Yémen, en Syrie et en Égypte. Et tout ça à pied. Tout ça à pied. Mon frère, toi, pour que tu te déplaces de chez toi à la mosquée la plus proche où il y a des cours de fiqh, de aqida, etc., etc., tu dis, ouais, mais c'est difficile. Il y a des bouchons dans la circulation. Je vais mettre une heure. Tu vas mettre une heure, hein. Non, moi je vais mettre une heure et demie, j'habite loin. La mosquée chez vous, c'est le Bourget. Moi je viens de Grigny, c'est loin. Ouais, c'est quoi, une heure et demie? C'est beaucoup pour toi. Taïb, et qu'en dis-tu de quelqu'un qui voyage, de ses voyages à pied? Yémen, Syrie, Égypte, Irak, à pied. Ça c'était la motivation de l'imam Shafi'i et c'est comme ça qu'il a atteint ce grand degré de science. L'imam Shafi'i a dit en parlant de lui, j'ai grandi pauvre et orphelin, ma mère n'avait pas les moyens. Je me rendais alors chez le boucher et je lui demandais de me donner des os afin que je puisse écrire la science dessus, car il n'avait pas les moyens d'acheter des feuilles. Où est-ce qu'il écrivait ses cours? Sur des os. Il allait voir les bouchers et lui disait, est-ce que tu peux me donner des os? Il n'a pas les moyens d'acheter des feuilles. Il est pauvre, il n'a pas de moyens de transport pour se déplacer, et il a eu toute cette science, la science de l'imam Malik, la science d'Abu Hanifa, et c'était le prof de l'imam Ahmed. T'imagines un petit peu? Concernant sa croyance, l'imam Shafi'i rahimahullah avait la croyance des gens de la sunna et du consensus. Aqidat ahl sunna wal jama'a. Il a excellé en matière de aqida. On le questionna un jour, ô Shafi'i, le Coran est-il créé? Il répondit, ouf et ouf. En arabe, cette parole, c'est une parole qui exprime une forme de mécontentement. Et il a dit, le Coran est la parole d'Allah, il n'est pas créé. Et quiconque dit que le Coran est créé a mécru. Ça, c'est ce qu'a dit l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit qu'une personne rencontre Allah avec tous les péchés, sauf le shirk, donc l'association, est meilleure pour elle que de le rencontrer avec une seule des croyances innovées. Une seule des croyances innovées. Et lorsqu'il arriva en Égypte, les gens lui dirent, Al-Layth ibn Sa'd, qui était un grand savant d'Égypte à son époque, Al-Layth ibn Sa'd a dit, là on est en train de raconter à qui, à Shafi'i rahimahullah, Al-Layth ibn Sa'd a dit, même si je voyais un des gens de l'innovation marcher sur l'eau, je n'accepterais pas de lui. Alors l'imam Shafi'i dit, il, en parlant de Layth, n'a pas été assez loin. Il a dit, si je le voyais marcher dans l'air, Il parle d'un mubtadi', d'un innovateur. Si je le voyais marcher dans l'air, je n'accepterais pas de lui. Pas sur l'eau, dans l'air. Et il disait, ne prie pas derrière un rafidi. C'est ceux qui insultent les compagnons, les chiites. Ni un qadari, ni un murji. Ça c'était l'imam al-Shafi'i et sa croyance. Quant à son adoration, al-Rabi' a dit, l'imam al-Shafi'i avait divisé sa nuit en trois parties. Le premier tiers de sa nuit, il écrivait. Il écrivait, la science. Dans le second, il priait et dans le dernier, il dormait. Voilà comment était répartie la nuit de l'imam al-Shafi'i. Pendant le ramadan, comme le rapporte l'imam al-Dhahabi dans Sir Alam al-Nubala, il lisait 60 fois le Coran pendant le mois, c'est-à-dire deux fois par jour. Deux fois par jour, il lit le Coran en entier. Plus de 1200 pages par jour. Ça, c'est pendant Ramadan. Rabi' ibn Sulayman a dit, l'imam al-Shafi'i a dit, cela fait 16 ans que je n'ai pas été rassasié, sauf une fois où j'ai introduit ma main dans ma bouche pour me faire vomir. Sur 16 ans, il s'est rassasié qu'une fois, et dans cette fois-là, il a mis sa main dans sa bouche pour se faire vomir. Pourquoi ? Il a dit, en effet, combler sa faim alourdit le corps, durcit le cœur, anéantit l'éveil, attire le sommeil et engendre la faiblesse face à l'adoration. Subhanallah. Wallah, il y a des paroles en or. Des paroles en or, c'est vrai. Quand tu manges trop, tu as envie de dormir, tu deviens lourd, tu n'as pas envie d'apprendre la science, tu n'as pas envie de faire d'efforts. C'est vrai, c'est pas vrai. Lui, sur 16 ans, il s'est rassasié une fois et il s'est fait vomir. Je répète ce qu'il a dit. Il a dit, en effet, combler sa faim alourdit le corps. Ça, tu deviens feignant. Tu bouges pas. La seule chose que tu veux, c'est regarder la télé, un match, être sur Facebook, surfer sur le net, perdre du temps. Ça, c'est quand tu t'alourdis le corps. Ça durcit le cœur. Ça anéantit l'éveil, ça attire le sommeil et engendre la faiblesse face à l'adoration. Quand tu es lourd, tu n'as pas la motivation de te lever faire deux rak'at ou lire du Coran ou de faire du dhikr. Tu es lourd. Quant à son comportement, l'imam al-Shafi'i a appris de l'imam Malik sa science mais aussi son comportement. Et tellement al-Shafi'i respectait l'imam Malik, il disait « Je tournais les pages avec douceur en présence de l'imam Malik par respect envers lui, de crainte qu'il entende leur bruit. » T'as eu le comportement avec le cheikh ? La page, pour la tourner, il le fait délicatement, doucement, pour ne pas perturber son cheikh. Ça, c'était son comportement et le respect qu'il avait pour la science et pour les savants. Ça, c'est l'adab. Aujourd'hui, on a des gens qui, pendant le dars, mettent leurs pieds en face de celui qui leur enseigne. Ou bien, ils lui tournent le dos. Et tout ça, ça ne fait pas partie du adab. Ou bien, tu les vois faire du bruit pendant le dars. Ou d'autres l'interrompent pour lui poser des questions. Ou l'autre, il répond au téléphone et il parle fort. Tout ça, c'est un manque de adab. Tout ça, c'est un manque dans le comportement. Toujours sur son comportement, lorsqu'il se rendit à Bagdad, il délaissa le qunut du fajr. C'est l'invocation donc qu'il faisait après le fajr. Alors que c'est quelque chose qu'il faisait tout le temps dans son madhhab. Et quand ses élèves lui demandèrent « Pourquoi as-tu arrêté le qunut de salat al-fajr ?» Il répondit « Nous sommes dans le pays d'Abu Hanifa et Abu Hanifa voyait que le qunut ne se fait pas dans salat al-subh. » T'as vu le respect de la divergence ? C'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord avec Abu Hanifa sur un sujet, il va dans le pays d'Abu Hanifa et il se plie au madhab de l'imam Abu Hanifa pour ne pas choquer les gens, pour ne pas faire de fitna. Et ça montre son intelligence et son comportement face à la divergence. Aujourd'hui, les gens veulent imposer leur avis dans tous les sujets. Ils veulent qu'il n'y ait qu'un seul avis qui règne dans tout. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Prenons les sujets les plus couramment cité. Quand tu parles aujourd'hui avec un jeune frère ou sœur sur le sujet de la hijra, de l'immigration d'une terre de non-musulmans, certains le voient sur un seul angle. C'est haram de vivre dans une terre de non-musulmans, alors qu'il y a d'autres avis. Il y a l'avis de Cheikh Al-Uthaymeen qui dit que c'est une chose qui est permise avec des conditions. D'accord ? Et que ce n'est pas obligatoire. Mais non, les gens ils voient qu'un seul avis. Et ils veulent imposer cet avis. Et ils ne reconnaissent pas la divergence. Alors que les savants, à l'époque, et même les compagnons avant eux, ont divergé, ont reconnu les divergences et se sont respectés malgré les divergences. Et si on a ça aujourd'hui, c'est parce que les gens n'ont pas de science. Moins tu as de la science, moins tu respectes la divergence, moins tu en connais sur la divergence, plus tu as la poitrine serrée quand tu entends un avis qui ne t'a pas été enseigné. Et plus tu apprends, plus, alhamdoulilah, tu vois les choses d'une autre manière. Un jour, l'imam Shafi'i rahimahullah tomba malade. Et ça, c'est toujours sur son comportement. Puis son élève, Ar-Rabi', le visita et lui dit « Qu'Allah renforce ta faiblesse au imam. Qu'Allah renforce ta faiblesse au imam. » Il voulait en fait lui faire une invocation et lui dire que Dieu te renforce de ta faiblesse, mais il a dit qu'Allah renforce ta faiblesse. Il y a une nuance. L'imam Shafi'i sourit et lui dit « Fais attention à ce que tu dis. Si Allah renforce ma faiblesse, je vais mourir. » Il lui a dit « Qu'Allah renforce ta faiblesse, pas qu'Allah te renforce de ta faiblesse. » Donc si ma faiblesse augmente, je mourrai. Là, son élève reprit et dit « Par Allah, je ne voulais dire que du bien. » Il n'a pas fait exprès. Et là, l'imam Shafi'i lui répondit « Je le sais, et d'ailleurs, même si tu m'insultais, je penserai au fond de moi que tu ne voulais dire que du bien, et j'aurai envers toi que de bons soupçons. » Ça, c'est le comportement des savants. Ça, c'est le comportement de qui ? Des savants. Ça, c'est la politesse de l'imam Shafi'i, et ça, c'est la fraternité en Allah Azzawajal. Yusuf al-Soudafi, rahimahullah, a dit « J'ai été étonné de la sagesse de Shafi'i. Je n'ai pas vu plus sage que lui. » Il dit un jour, j'ai eu un débat avec lui. Mes frères et sœurs, ouvrez bien vos oreilles sur ce qui suit. Ô vous qui aimez les débats, même si vous ne connaissez rien, ô vous qui aimez débattre pour débattre et non pour chercher la vérité, ô vous qui aimez débattre et après le débat, vous tournez le dos à vos frères et sœurs, car ils ne sont pas d'accord avec vous sur un sujet religieux où la divergence est fondée, ouvrez bien vos oreilles. Le frère ou la sœur qui sont des masakines et qui sont comme ça, on leur dit écoutez ces histoires car wallahi, elles réveillent les cœurs et elles montrent comment est-ce qu'on doit se comporter quand on diverge sur un sujet où la divergence est fondée. Est fondée. On parle des furu' et non des usul, des branches et non des bases. Ils ont lu aujourd'hui un livre où ils sont passés sur une page sur internet et ça y est, on les entend dire halal, haram, makruh, sunnah, bid'a. Il ne parle pas l'arabe, il ne lit pas l'arabe, il ne comprend pas l'arabe. Et il attaque tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et il impose son avis. Et il veut que les gens voient la religion comme lui la voit. Stop. Mon frère, ainsi que toi ma soeur, ce n'est pas parce que tu es resté avec un cheikh une semaine ou un mois que tu as de la science. Apprends à connaître tes limites. Apprends à connaître tes limites. Un terrain, tu ne le maîtrises pas, va pas dedans. Mais aujourd'hui, on vit l'époque du risque où les gens ne maîtrisent pas, mais c'est pas grave, on s'avance. Halal, haram, je pense, je vois, je crois, j'ai entendu, je... C'est pas comme ça la religion. Là, t'es en train de jouer avec la religion. Là, c'est la honte ce que t'es en train de faire. Yusuf al-Soudafi, il dit, après avoir débattu avec l'imam Shafi'i, j'étais en colère contre lui car on n'avait pas eu la même opinion sur un sujet. Et ça arrive beaucoup aujourd'hui. Tu parles avec un frère ou une sœur, les sœurs entre elles, bien sûr, et ils divergent, ou elles divergent, et automatiquement, ça se tourne le dos. On en a plein comme ça aujourd'hui. Il suffit que tu diverges avec lui sur un point pour qu'il dise de toi, t'es un innovateur, t'es un égaré, il ne faut pas s'asseoir dans ces assemblées, il ne faut pas assister au cours d'un tel, ni d'un tel, ni d'un tel, ni d'un tel. Yusuf al-Soudafi, rahimallah, dit « J'ai rencontré l'imam Shafi'i en chemin. » Donc, il s'est mis en colère contre lui après un débat, et il l'a rencontré en chemin. Il me prit par la main et me dit « Ne pouvons-nous pas être des frères, même si l'on diverge sur un point ?» T'as vu la sagesse et le comportement de l'imam Shafi'i ? Ne pouvons-nous pas être des frères, même si l'on diverge sur un point ? Mon frère, même si tu diverges avec un autre frère, tant que ce n'est pas dans les bases de la religion, qu'est-ce qui t'empêche de le rencontrer, de l'aimer, de parler avec lui, de continuer à garder ton lien avec lui ? Et toi, ma sœur, de le faire avec ta sœur ? Ça, c'était donc le comportement de l'imam Shafi'i. Et il était très généreux, rahimallah, très généreux. Al-Humaydi raconte que lorsqu'Al-Shafi'i arriva à San'a, ils lui installèrent une tente. Et l'imam Shafi'i avait avec lui 10 000 dinars. Un dinar, c'était 5 grammes d'or. Puis lorsqu'il décida de s'en aller de San'a, il ne lui restait plus rien de son argent. Il fit aumône de tous ses biens. Ça, c'était Shafi'i et sa générosité. Un jour, alors qu'il passait près d'un groupe d'enfants, son bâton tomba par terre. Un enfant lui ramassa, l'essuya avec son vêtement et lui donna regarde le respect de l'enfant envers la personne âgée, envers les personnes de science. Suite à quoi l'imam Shafi'i lui donna 7 dinars. Et je vous ai dit, un dinar c'était 5 grammes d'or, c'est-à-dire 35 grammes d'or. Il était généreux, rahimallah. Il était très modeste. Il disait, il incombe au savant de mettre de la terre sur sa tête par modestie envers Allah. Quant à la sincérité de l'imam Shafi'i, il disait, écoute bien, par Allah, je n'ai jamais débattu avec quelqu'un sans demander à Allah que la vérité jaillisse de sa bouche. Qu'en penses-tu? Ceux qui aiment les débats et ceux qui débattent aujourd'hui, on les a déjà vus se comporter de cette manière? Billahi alaykum, répondez. Ça existe ça aujourd'hui? Que quand tu débats avec quelqu'un, tu demandes à Allah et Allah fait que la vérité elle sorte de sa bouche? Mais aujourd'hui on fait tout pour avoir raison, pour avoir le dernier mot, pour montrer aux gens, et on le dit. T'as vu comment je l'ai chaotisé en deux secondes? Eh mon frère, tu me connais de toute façon. Eh, j'ai pas étudié 5 ans pour rien. Et 5 secondes, ça jette des fleurs et des ailes, il décolle. Redescend mon frère, coupe les ailes, redescend. Redescend et rappelle-toi qui t'es et rappelle-toi que t'as des limites. Regarde ce qu'il dit, je répète, par Allah, je n'ai jamais débattu avec quelqu'un sans demander à Allah que la vérité jaillisse de sa bouche. Ça montre sa sincérité. L'imam Shafi'i disait aussi, j'aime les gens pieux alors que je n'en fais pas partie. Il s'est exclu des gens pieux. Alors que Shafi'i, rahimallah, c'était quelqu'un qui ne faisait pas nos péchés. C'était quelqu'un de pieux. Et aujourd'hui, on a des gens qui ne sont pas pieux mais qui se prennent pour des super pieux. Et des sœurs pareilles. Qui pensent que parce que simplement ils ont changé la tenue vestimentaire et que c'est devenu plus correct qu'avant, ça y est, ikhlas, ils ont fini la religion. C'est les super pieux. Tu ne peux plus les tester. Et quand il parle avec quelqu'un qui n'a pas la barbe, automatiquement c'est un ignorant, un égaré qui va en enfer. Alors qu'il est possible qu'il connaisse le Coran par cœur. Et par ça, tu dois le respecter. Et lui faire da'wah sur la barbe. Mais non, aujourd'hui on manque de tout ça, on manque. J'aime les gens pieux alors que je n'en fais pas partie. Et pourquoi il aime les gens pieux? Car ils aiment Allah et les pieux obéissent à Allah. Il dit, j'aime les gens pieux alors que je n'en fais pas partie, peut-être pourrais-je atteindre une intercession grâce à leur amour et je déteste ceux qui commercent avec les péchés, même si nous avons la même marchandise. Subhanallah. L'imam Shafi'i rahimahullah disait aussi, j'aurais aimé que les gens apprennent toute ma science sans que je sois mentionné. Subhanallah, là ça te montre vraiment la sincérité de l'imam Shafi'i. Écoute bien, imagine que dans 10 ans, ou même dans quelques années, Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde tellement de science que tu te retrouves à ma place en train d'enseigner du consistant aux gens. D'accord? Tu donnes. Et que les gens commencent à enseigner ce que tu leur as enseigné. Et que quand on leur dit « qui vous a enseigné ça ?», ils disent « c'est un tel » en citant ton nom. À ce moment-là, à quoi va ressembler ta joie? Tu vas dire, subhanallah, les gens maintenant, tout le monde parle de moi, c'est ma science qui a pris le dessus, c'est ma science qui règne. L'imam Shafi'i, il dit, j'aurais aimé que les gens apprennent toute ma science sans que je sois mentionné. Qu'ils apprennent sans dire, ça vient de Shafi'i. Pourquoi? Parce que pour lui, le plus important, c'est pas que lui, il soit mentionné. C'est que les gens apprennent et mettent en pratique. Et ça, c'est quelqu'un de sincère. Et nous, aujourd'hui, on veut que notre nom, il ressort partout. Partout. Peu importe le poste qu'il occupe dans la communauté, il veut qu'il soit tout le temps mis en avant et que son nom soit celui qui soit le plus cité. Revoyez toujours votre intention et wallah, il s'en rappelle que je me fais à moi-même, qui est un pauvre miskin et je suis dans le même sac que tout le monde. Ne pensez surtout pas que parce qu'il y a un site, il y a Facebook, il y a des audios, il y a du téléchargement, que ça vaut quelque chose. Wallah, ici on n'est pas sincère, le jour du jugement, tout ça, ça pèse rien. Ça pèse rien. C'est pour ça qu'on doit toujours revoir notre relation avec Allah. Toujours revoir notre intention. Pourquoi est-ce qu'on va à la mosquée? Moi et toi, on doit se poser la question. Pourquoi? Pour apprendre? Pour quel but tu apprends? Pour améliorer ta relation avec Allah? Pour pouvoir mieux l'adorer? Pour pouvoir diffuser le bien autour de toi? Ou pour qu'on dise de toi, mashallah, qu'on te montre du doigt? Qu'on dise, lui, il a de la science. Lui, il a trop évolué. Cette sœur, elle a changé, mashallah. En quelques mois, tac, 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 tac. Ça y est, c'est passé du petit hijab au jilbab. Maintenant, elle apprend des cours d'arabe. Maintenant, elle a le Coran. Maintenant, c'est ça ton intention, ma sœur? Si c'est ça, fais attention. Et attention à ne pas tomber dans un grand panneau qui est, bon, puisque je ne suis pas sincère, j'arrête d'apprendre la science. Non, change ton intention. Reste dans ce que tu es, mais change cette intention. Travaille sur toi, sois discret. Parle pas trop aux gens de ce que tu connais, de ce que tu fais. Sois discret. Sois discret. Et de cette manière, tu pourras garantir qu'il y a des choses que tu fais qu'Allah seul connaît et personne d'autre. Là, tu seras sincère, bidnillah. Mais franchement, t'imagines, j'aurais aimé que les gens apprennent toute ma science sans que je sois mentionné. Il aurait aimé que les gens apprennent sa science sans que celle-ci ne lui soit attribuée. Et aujourd'hui, que ce soit une association musulmane ou un prédicateur ou même un frère ou une sœur de la communauté, quand ils font un effort, le moindre effort, ils veulent que tout le monde le sache. Il n'y a pas de mal si tu as une bonne niya derrière pour rappeler au bien, pour montrer l'évolution des choses. Mais si tu le fais, fais attention parce que c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Il est possible que tu aies ta part dans ce bas monde d'éloge et le jour du jugement, tu n'es rien du tout. L'imam Shafi'i rahimahullah, le plus important pour lui, c'était quoi? Que la science du prophète alayhi salatu wasalam se propage et non que son nom à lui se diffuse. Et si on voit ses biographies, ce n'est pas simplement pour parler, pour vous raconter des belles histoires. Non, c'est pour qu'on prenne exemple aussi sur ces grands savants. L'imam Shafi'i rahimahullah était très intelligent. Un jour, un homme alla questionner l'imam Malik en lui disant « Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé ma femme mal habillée, mal entretenue. Suite à quoi je lui dis « Je vais sortir de chez moi et dans le cas où je reviens et que tu n'es pas plus belle que la lune, tu es divorcé. » Imagine un petit peu. Je vais sortir de la maison, je reviens, tu n'es pas plus belle que la lune, tu es divorcé. Faut le faire, hein. L'imam Malik lui a dit, ta femme est divorcée. L'homme lui dit, et pourquoi? L'imam Malik lui dit, il n'y a pas une femme plus belle que la lune. Al-Shafi'i rahimahullah qui était présent dit, ô imam, me permets-tu de prendre la parole? Regarde le comportement. Al-Shafi'i c'était l'élève de l'imam Malik. Il lui a dit, est-ce que tu me permets de prendre la parole? Malik lui donna l'autorisation, suite à quoi Al-Shafi'i dit, je vois plutôt que son divorce n'est pas compté. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, car sa femme est plus belle que la lune. L'homme se met en colère et dit à Shafi'i, où as-tu vu ma femme? Il pense qu'il a vu sa femme. L'imam Shafi'i lui dit, je n'ai jamais vu ta femme. Seulement, Allah a dit, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. La chose la plus parfaite qu'Allah a créée, c'est l'homme. Et Allah n'a pas dit ça sur la lune. Donc il lui a dit, l'homme est plus beau que la lune. T'as vu la déduction de Shafi'i? T'as vu le réflexe? T'as vu l'intelligence? T'as vu comment le verset il est sorti? L'imam Malik revint sur sa parole et prit en compte la parole de l'imam Shafi'i. Et ça montre la modestie du cheikh envers son élève, qui se fait reprendre par l'élève et qui dit Shafi'i a raison et l'imam Malik a eu tort. Tout ça c'est des leçons pour nous. Tout ça c'est des leçons pour nous. Un homme parmi les Khawarij, c'est une secte égarée, ceux qui ont rendu mécréant Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Un jour, l'imam Shafi'i est en train d'évoquer Ali ibn Abi Talib, en citant ses poésies, ses fatwas, et c'est ainsi que les gens de la Sunna aiment toute la famille du prophète, alayhi salatu wasalam, et ils se rapprochent d'Allah par l'amour qu'ils ont pour eux. Donc, l'imam Shafi'i, il évoquait beaucoup Ali ibn Abi Talib. Et un parmi les Khawarij, un parmi les ennemis de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, a vu un rêve. Et Allah demandé son interprétation à l'imam Shafi'i. Il dit, ô Abu Abdillah, à chaque fois que tu es dans une assemblée, tu parles du fiqh de Ali, donc de la jurisprudence de Ali, de la science de Ali. Alors que je l'ai vu hier dans mon rêve, et je lui ai posé des questions, et à chaque fois que je lui posais des questions, il me disait, salam, 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 c'est-à-dire paix, paix, paix. Il dit donc, c'est un ignorant, il ne connaît rien. Je lui pose des questions dans mon rêve et il ne fait que de me dire paix, paix, paix. Et Al-Shafi'i se met à rire et lui dit, et y a-t-il meilleure réponse pour toi que celle-ci? N'as-tu pas lu ce qu'Allah a dit dans le Coran? Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Puis, lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils leur disent « paix ». Lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils leur disent « paix ». Donc il lui a dit, il t'a répondu la meilleure réponse. La meilleure réponse. Une autre histoire. Un jour, on demanda à l'imam Shafi'i au sujet d'un homme qui dit, regarde cet homme, il dit quoi? Il dit, j'ai mis une date dans ma bouche et j'ai juré que ma femme est divorcée si je la mange et qu'elle est divorcée si je ne la mange pas. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a des gens comme ça, wallah, ils jouent avec le divorce. Ils croient sa femme, c'est un yo-yo. C'est vrai, hein? Ils croient c'est un frisbee. Ça part, ça revient, ça part, ça. Wallah, c'est ça. Ils jouent avec le divorce. Et pour moins que cela, on entend des divorces aujourd'hui. De plus en plus, je reçois des emails où les gens appellent à des médiations. Oui, mon mari me fait ça, ma femme elle me fait ceci et cela. Et quand tu écoutes les histoires, tu dis, mais attends, première chose, tu demandes, ils ont quel âge? Et quand tu entends, ils ont quel âge, t'es choqué. Tu dis, c'est pas vrai, ça existe? Wallah, t'es choqué. T'es choqué. Et je vais vous dire une chose, wallah, et je l'ai déjà dit dans mes audios, ça fait vraiment mal au cœur ce que je vais vous dire. On entend plus parler de divorce que de mariage aujourd'hui. Manque de maturité, religieuse et non religieuse, manque de science. Les gens, ils s'engagent par passion, juste parce qu'il a quelques envies, et la sœur, pareil, elle en a marre alors de papa et maman, juste j'ai envie de me retrouver entre quatre murs avec un homme. C'est pas comme ça le mariage, c'est pas un jeu, c'est un engagement, et c'est le choix d'une vie. C'est le choix d'une vie, réfléchissez bien avant de vous engager. Donc l'homme, il dit, j'ai mis une date dans ma bouche, et j'ai juré que ma femme est divorcée si je la mange, et qu'elle est divorcée si je ne la mange pas. Qu'est-ce que je fais? Le chef Ayy Rahimallah, qui était très intelligent, a répondu facilement en disant, mange la moitié et recrache la moitié. T'as vu l'intelligence de l'imam chef Ayy? Ça montre comment ils étaient intelligents. Toi et moi, on aurait pu se casser la tête des semaines. Ah, mais comment on va faire? Celui-là aussi, il est grave avec son histoire. Ça montre son intelligence, Rahimallah. Parmi ses paroles, l'imam chef Ayy Rahimallah dit des paroles qui valent plus que de l'or. Il disait, les musulmans ont perdu le tiers de la science. Il disait, c'était la médecine. La médecine. C'est une réalité aujourd'hui. Lorsque les personnes de haut rang dans le monde, arabo-musulmans, veulent se faire opérer, où est-ce qu'ils se rendent? Ils restent en Afrique ou ils vont en Europe ou aux États-Unis? Et pourquoi est-ce qu'ils vont là-bas? Parce que là-bas, la médecine, elle est bien avancée. Hélas, autrefois, les gens venaient chez nous pour apprendre les sciences. Et aujourd'hui, ça y est, tout est parti de chez nous. Il disait, demander la science est meilleur que de prier des prières nocturnes. Et ça, c'est aussi une parole de l'imam Ahmad, rahimallah. Écoute bien, demander la science est meilleur que de prier des prières nocturnes. Pourquoi? Parce que quand tu pries des prières nocturnes, qiyamul layl, les prières que tu fais la nuit, tu le fais pour toi, n'est-ce pas? Mais quand tu demandes la science, cette science, elle va avoir plus tard, inshallah, un intérêt qui va toucher tout le monde. Et nous, on a une règle, c'est l'intérêt général, il prime sur l'intérêt individuel. Et à chaque fois que le bien que tu fais touche un maximum de monde, eh ben, faut que tu saches que ta récompense, elle est multipliée. Et lui-même, Al-Shaf Ayyrahmallah disait aussi, si le hadith est authentique, alors c'est mon madhab, c'est-à-dire c'est mon opinion. De même que l'imam Al-Shaf a dit, si l'une de mes paroles contredit un hadith, un hadith, c'est une tradition donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si l'une de mes paroles contredit un hadith, jetez ma parole contre le mur et prenez le hadith. Ça, ça appelle à quoi? À s'éloigner du ta'assoub, de l'attachement aveugle à la personne. Et ça, on en a parlé combien de fois? Quand tu t'attaches, dans la science, tu t'attaches au texte et non à la personne qui t'enseigne. Parce que le jour où la personne qui t'enseigne va se tromper, tu vas être déçu, il est possible que tu arrêtes la science. Alors que non. Tu dois t'attacher à quoi? Au dalil, aux preuves. Aux preuves. La personne qui t'enseigne dit ce qui est en conformité avec le Coran et la Sunna, tu l'acceptes. Ce n'est pas conforme, tu rejettes contre le mur. Et je vous l'ai dit plusieurs fois sur mes paroles. Plus d'une fois. L'imam Shafi'i, rahimahullah, rapporta un jour un hadith à Al-Humaydi. Puis Al-Humaydi lui dit, le mets-tu en pratique? Au Shafi'i. L'imam Shafi'i se met en colère et lui dit, me vois-tu sortir d'une église? Ou me vois-tu porter des vêtements spécifiques aux chrétiens pour que je te dise des paroles du prophète alayhi salatu wasalam sans que je les mette en pratique? Il mettait en pratique tout ce qu'il connaissait, rahimahullah. Et ça, on en a parlé plusieurs fois aussi. C'est bien beau d'apprendre, mais il faut mettre en pratique. Tu connais beaucoup de choses dans la religion. Ce n'est pas le premier cours, ce n'est pas le premier dars auquel tu assistes. Mais qu'est-ce qu'on a mis en pratique de ce qu'on a entendu? Chacun connaît la réponse. Lui-même, Al-Shafi'i, il mettait en pratique tout ce qu'il connaissait, rahimahullah. Quant à l'imam Al-Shafi'i, rahimahullah, parmi ses belles paroles, il disait « Man tafaqqaha min butun al-kutub dayya al-ahkam » Celui qui apprend la science des livres, et ça on en connaît beaucoup comme ça, il apprend la science des livres, sans retourner aux gens de science, anéantira les règles de la religion. Celui qui apprend la science des livres anéantira les règles de la religion. La science, ça ne s'apprend pas des livres. La science, elle ne se transmet pas d'un livre. Elle se transmet des cœurs vers les cœurs. Il faut que tu aies un enseignant. Il faut que tu aies quelqu'un qui t'enseigne la religion. De cette manière, tu vas évoluer rapidement. Et on a déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs conférences du bienfait d'avoir un cheikh qui t'enseigne. D'accord ? C'est important. Parce que les gens qui prennent leur science des livres, ils peuvent mal comprendre. Ils peuvent apprendre ce qui est faux, ce qui n'est pas authentique, etc. Et il disait aussi, l'imam Al-Shafi'i rahimahullah, et ça te montre ses paroles, comment elles étaient sages et comment elles contenaient plein de leçons. Il disait, j'ai débattu avec un savant et je l'ai battu. Donc il a réussi le débat avec lui. Pourquoi ? Entre savants, lui va ramener des arguments, l'autre il va ramener des arguments. Au final, il y a quelqu'un qui va réussir à trancher sur le sujet. Mais il dit, quand j'ai débattu avec un ignorant, j'ai été battu. Pourquoi ? Parce que quand tu débats avec un ignorant, c'est quoi son réflexe ? Attention, il y a deux types d'ignorants. Il y a l'ignorant simple, c'est celui qui est ignorant et qui dit j'ignore. Celui-là, machallah, il n'y a rien à dire. Parce que celui-là, il demande juste à apprendre. Et quand il va débattre et qu'il ne connaît pas, il va dire, ah bon, je ne savais pas. Barakallahu fik, tu m'as appris. Mais il y a l'ignorant composé. Ça, c'est un grand problème. C'est celui qui ignore qu'il ignore. Celui-là, c'est un casse-tête. C'est un vrai casse-tête. Il va débattre avec toi, il n'a aucun bagage, aucun, dans Usul al-Fiqh, dans Ilm al-Hadith, dans le Mustalah, dans l'aura, etc. Mais il débat. Il débat, non, je ne suis pas d'accord. Ah bon, pourquoi ? Parce que ça. Et à la fin, chaque fois que tu lui fermes une porte, il t'en ouvre une autre. Tu lui fermes une porte, il t'en ouvre une autre. C'est pour ça que l'imam Shafi'i, il a dit, mais quand j'ai débattu avec un ignorant, j'ai été battu. Tu peux pas débattre avec un ignorant, il va t'ouvrir 1000 portes. Mais quand la personne elle a de la science, là c'est bon, on travaille sur un terrain solide. Et parmi ses belles paroles et sagesse, il disait « Satisfaire tout le monde est un objectif irréalisable. » Toi, tu as devant tes yeux, numéro un, de satisfaire Allah Azzawajal. Ça c'est un. Avant n'importe quoi, avant tes parents, avant ta propre personne, avant ton épouse, tes enfants, etc. Allah il dit « C'est son ordre à lui qui passe avant n'importe quel ordre. Et pas tes passions en premier. Et pas l'ordre de tes parents en premier. Bien que les parents, ils aient une grande place dans la religion, et ça on le sait. On a même fait au moins 3 ou 4 conférences dans le site sur le comportement avec les parents. Mais, chaque chose a sa place. Toi, quand tu vas agir, tu cherches d'abord à satisfaire qui ? Allah Azza wa Jal. Taïb. Un exemple. Je fais un mariage où il n'y a pas de musique, il n'y a pas les instruments d'Iblis, donc Iblis n'est pas présent, et la famille elle est en colère. Et mon père il me dit, je ne suis pas satisfait toi, etc., etc., et ta mère te dit, je te renie, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rentrer dans le clash, ou que ce soit du frontal avec les parents, mais l'ordre d'Allah passera avant tout. Et on essaiera, Inch'Allah, avec sagesse, de parler, de dialoguer, d'essayer de crever l'abcès, de ramener des gens de science, de voir avec la famille si on peut essayer de résoudre ce problème, etc. Mais l'ordre d'Allah, c'est le numéro un. Pareil pour une femme qui veut voyager sans mahram, sans un membre de sa famille. Et pourquoi je vous parle de ça ? C'est ce qui est un courant. Je vous parle surtout de ce que j'entends le plus. Non, la sœur, elle n'a pas le droit de voyager sans mahram. Elle n'a pas le droit. Ça, quand je vous dis elle n'a pas le droit, il y a des textes de la religion, il y a les avis des 4 écoles, on en a parlé des 4 écoles, et là on est en train de voir l'un des savants des 4 écoles, qui est la 3e école, il ne l'autorise pas. Il ne l'autorise pas. Oui, mais mes parents, monsieur, si cela, ils m'ont dit d'y aller pour prendre 2 semaines et prendre un peu l'air à Tokyo. Non. Les ordres d'Allah passent avant tes passions, passent avant tout. Il faut bien comprendre. Et l'imam Al-Shafi'i, rahimahullah, disait aussi, regarde ses paroles. Wallahi, ses paroles, elles étaient agibles, mashallah. Il disait, mon avis me semble bon, mais il est possible qu'il ne le soit pas. Mon avis me semble bon, mais il est possible qu'il ne le soit pas. Et l'opinion d'autrui peut être correcte, même si pour moi, elle ne l'est pas. Ya sahbi, pour comprendre ces paroles, il faut du cerveau. Écoute bien. Mon avis me semble bon, mais il est possible qu'il ne le soit pas. Il n'a pas un jazm, une certitude dessus. Pourquoi ? C'est un avis. D'accord ? Par contre, s'il y a Qur'an, Sunnah, tout ça, c'est fini. Mon avis me semble bon, mais il est possible qu'il ne le soit pas. Et l'opinion d'autrui peut être correcte, même si pour moi, elle ne l'est pas. Voyons ensemble les éloges des savants sur lui. L'imam Ahmad, rahimahullah, a fait énormément d'éloges sur l'imam Shafi'i qui était son professeur. Regarde ce qu'a dit l'imam Ahmad, des paroles en or. Et l'imam Ahmad, à lui seul, son éloge, elle suffit. L'imam Ahmad, bi'idhnillah, quand on va voir ensemble sa biographie, vous allez voir que c'était un poids. Il connaissait 1 million de hadiths. 1 million de hadiths. Et ça, bi'idhnillah, on le verra dans sa biographie. L'imam Ahmad a dit, la nuit, j'invoque Allah pour 6 personnes parmi eux, l'imam Shafi'i. Chaque nuit, il fait des doigts pour 6 personnes. Parmi ces 6 personnes, il y a l'imam Shafi'i. Chaque nuit, dans le dernier tiers de la nuit, l'imam Ahmad rahimahullah fait des doigts pour l'imam Shafi'i. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il a appris beaucoup de lui. Et la question que je vous pose, et que je me pose à moi-même, où sont les doigts que l'on fait pour les gens qui nous ont enseigné la religion et qui nous ont enseigné le bien ? Mon frère, ma sœur, as-tu oublié que c'est en écoutant tel imam ou tel shir ou tel prédicateur que tu as commencé à faire la prière et que tu as commencé à porter le hijab? Où sont les doigts que l'on fait pour les gens qui nous ont enseigné le bien? Hélas, la seule chose qu'on voit aujourd'hui, c'est des gens ingrats, des gens qui mordent la main qui leur a servi du khir, du bien. Et ça, bien sûr, c'est un comportement à délaisser, celui de dénigrer par les mâles des savants, par les mâles des enseignants, et de voir qu'il n'y a que moi qui a la vérité et que tout le monde est égaré, ça, c'est à délaisser. Ça mettra à la poubelle, et tu fais un clic droit et tu vides la corbeille. Le musulman est celui qui rend le bien par le bien. Est-ce de cette manière que tu rends le bien ? Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, rahimallah, disait, j'entendais mon père faire des invocations pour l'imam Shafi'i dans ses prosternations. Alors je lui ai demandé, qui est Shafi'i à qui tu fais beaucoup de doa, beaucoup d'invocations ? Surtout que tu es Ahmad ibn Hanbal, l'imam des imams. C'est son fils qui lui dit ça. Mais pourquoi tu fais autant de doa pour Ash-Shafi'i? Il lui répondit, Ash-Shafi'i est comme le soleil pour les habitants de la terre et la bonne santé pour le corps. Allahu Akbar. Un remède pour les gens. L'imam Ahmad ibn Hanbal rahimallah a dit, personne n'a touché un encrier ou une plume sans qu'il ne soit redevable de quelque chose à Ash-Shafi'i. Vous avez vu comment les savants s'aimaient à l'époque, comment est-ce qu'ils se respectaient. L'imam Ahmad avait une petite fille qui lui demanda de voir Ash-Shafi'i tellement il parlait de lui. Alors l'imam Ahmad invita Ash-Shafi'i à manger. Il dormit chez l'imam Ahmad et s'en alla le lendemain. Le père dit à sa fille, que penses-tu de mon cheikh ? Elle lui dit, il a trop mangé, trop dormi et il a pris le fajr sans ablution. Elle lui dit ces paroles. Puis l'imam Ahmad alla voir son cheikh et lui demanda au sujet de ce que sa fille vit de lui. Et qu'est-ce qu'il a dit l'imam Shafi'i ? Il a dit, par Dieu, je n'ai pas dormi et dans cette nuit j'ai été inspiré par Allah sur 70 sujets qui concernaient les problèmes des musulmans. Donc il n'a pas dormi, il n'a pas eu besoin de faire les ablutions pour le fajr. Pendant sa nuit, il a pu résoudre 70 problèmes que rencontrent les musulmans. Et si je n'ai pas fait mes ablutions, c'est parce que je les avais encore. Et j'ai beaucoup mangé car la nourriture des pieux est un remède, sachant que c'est halal. L'imam Ahmad retourne voir sa fille et lui a dit, ma fille, une nuit de l'imam Shafi'i vaut mieux que toute la vie d'Ahmad ibn Hanbal. Subhanallah. On voit ici la modestie de l'imam Ahmad et le respect qu'il avait pour son cheikh. Et l'imam Ahmad, toujours, je vous ai dit, l'imam Ahmad, il a dit beaucoup sur son cheikh. L'imam Ahmad, rahimallah, disait, Ash-Shafi'i ne dit que des hadiths authentiques. Ash-Shafi'i, hadithun sahih. Ash-Shafi'i ne dit que des hadiths authentiques. Et l'imam Ahmad, encore une fois, a dit de lui, il est rapporté que le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, a dit, au début de chaque siècle, Allah envoie un réformateur qui renouvelle à cette communauté les affaires de sa religion. Il disait, Allah, subhanahu wa ta'ala, a envoyé Omar ibn Abdel Aziz au premier siècle pour renouveler à cette communauté sa religion, et j'espère qu'Ash-Shafi'i soit celui envoyé au deuxième siècle. T'imagines ? Ça, c'est les éloges de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimallah. Ahmad ibn Salam a dit que l'imam Ishaq ibn Rahawai, c'est un grand savant parmi les salafs, il s'est marié avec une femme après la mort de son mari. Pourquoi ? Parmi les causes, c'est qu'elle avait plein de livres de l'imam Shafi'i. Il ne s'est marié avec elle que parce qu'elle avait plein de livres de Shafi'i. Bien sûr, il y avait une attirance, mais ce qui a provoqué son envie, c'est les livres de Shafi'i. Donc mes sœurs, vous qui cherchez à vous marier, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Achetez les livres de l'imam Shafi'i. Abu Zar'a, rahimahullah, a dit, il n'y a pas chez Shafi'i un hadith contenant une erreur. Le mufti de la Mecque, Muslim ibn Khalid al-Zinji, a pris la main de l'imam Shafi'i alors qu'il avait moins de 20 ans et lui dit, émets des fatwas, fais des fatwas. Les fatwas, c'est les avis juridiques. Émets des fatwas, Abu Abdillah, car tu as largement atteint le niveau pour cela. Imagine-toi, moins de 20 ans, il commence à faire des fatwas. Des fatwas dans tous les sujets religieux. C'est ajib, wallahi, c'est ajib. Celui qui a donné le feu vert, c'est qui? C'est le mufti de la Mecque. Aujourd'hui, hélas, ils sont plus d'un à faire des fatwas sans avoir l'autorisation d'une personne de science. Abu Ali ibn Hakman, il dit à Rabi'a. Les élèves de l'imam Malik étaient fiers de voir 60 savants assister au cours de qui? De l'imam Malik. 60 savants. 60 savants, ils sont dans l'assemblée de l'imam Malik. Et regarde ce qu'il a dit. Il a dit, et par Allah, j'ai vu dans l'assemblée de Shafi'i plus de 300 savants, pas 60, 300 savants assistent à ces cours. Sachez qu'en Égypte, quand il donnait des cours, il n'y avait pas une assemblée qui ressemblait à la sienne. C'était une assemblée impressionnante. Des centaines de personnes dans la mosquée pour apprendre de sa science. Qutayb ibn Sa'id, rahimallah, a dit, c'est à la mort d'Athawri que la crainte scrupuleuse, donc Al-Wara, est morte. Et c'est à la mort de l'imam Shafi'i que les sunnas sont mortes, et c'est à la mort de l'imam Ahmed que les innovations sont apparues. Non. Abu Thawr, rahimahullah, a dit, je n'ai pas vu quelqu'un de semblable à Shafi'i. Ibn Khuzaym, rahimahullah, l'un des imams dans le hadith, un grand imam dans la science du hadith, a été questionné en ces termes, connais-tu une sunna du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, que l'imam Shafi'i n'a pas mis dans ses livres? Il dit non. Cela signifie qu'Ash-Shafi'i a mis toute la science dans ses livres. Avec tout cela, nous disons que l'imam Ash-Shafi'i, rahimahullah, est un être humain qui a eu raison dans certains sujets et qui a eu tort dans d'autres, et qu'on ne s'attache pas aveuglément à l'imam Ash-Shafi'i, ni à l'imam Abu Hanifa, ni à l'imam Malik, ni à l'imam Ahmad, ni à n'importe quel autre savant, qu'ils soient anciens ou contemporains. Mais par contre, on s'attache aveuglément à qui? À notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Shafi'i, rahimallah, décéda en l'an 204 de l'Hégire. Il est né en l'an 150. Donc il a vécu 54 ans. 54 ans, il a atteint ce niveau de science. Il décéda en l'an 204 de l'Hégire alors qu'il n'avait que 54 ans. Il est mort en Égypte, rahimallah, et c'était un jeudi. Il a été enterré le jeudi soir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. L'imam al-Muzani a dit, je suis entré chez Muhammad ibn Idris al-Shafi'i alors qu'il était mourant. Je lui dis, comment vas-tu ce matin, ô Abu Abdillah? Il leva la tête et répondit, ce matin je m'apprête à abandonner ce bas monde, à quitter mes frères, à rencontrer mes mauvaises actions et à être présenté à Allah Azza wa Jal. Et je ne sais pas si mon âme ira au paradis afin que je la félicite ou bien en enfer afin que je lui présente mes condoléances. Puis il pleura et il disait cela avant de mourir. Voir Siyar Alam Nubala. Ça, c'était l'imam Shafi'i, rahimallah. Le madhab de l'imam Shafi'i s'est répandu en Égypte, en Syrie, au sud de l'Inde, l'Asie du Sud-Est, donc Indonésie, Malaisie, et en Afrique. Et on a vu dans l'histoire de l'imam Shafi'i qu'il était pauvre, mais qu'avec ses sacrifices, il était riche aux yeux des gens, n'est-ce pas? Et sachez, mes frères et sœurs, que quiconque apprend la science de la religion fait partie des vivants. Quant à celui qui ne l'apprend pas, il fait partie des morts. Et hélas, on a plein de morts dans notre umma. Redonnons un sens à notre vie, adorons Allah Azza wa Jal et accrochons-nous à la science. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à l'imam Shafi'i et lui accorde le firdaus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour tout ce qu'il a fait comme ouvrage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour tous ses sacrifices et tout ce qu'il a pu nous transmettre comme science. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite d'apprendre la science et ce jusqu'à notre mort. As-salamu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ni bima qult wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lam wallahu 'azza wa jalla a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.